Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire, en compagnie de Céline Dacosta et Varrock, certainement les deux journalistes les plus classes et les plus distingués de la bande FM.
Putain, c'est clair!
Dans un instant, l'histoire sera à l'honneur. Avec l'érudition de Fabrice d'Almeida qui reviendra sur la notion française du droit à manifester, notion apparue au 19e siècle. Mais avant cela, l'info, toute l'info, c'est le journal de Céline Kallmann, l'une des journalistes les plus perfectionnistes de sa génération. Une passionnée qui n'hésite pas à retoucher son texte jusqu'à la dernière seconde. Passion qu'on ressent dans sa voix lorsqu'elle communique avec la régie.
Je peux enlever le truc de l'ONU si tu veux et rajouter juste une petite brève, Benoît, moi ou...
Et une journaliste qui se battra jusqu'au bout pour défendre ses sujets.
Je peux carrément l'enlever si tu veux.
Voici le journal de Céline Kallmann.
Merci d'écouter Europe 1, nous sommes le mercredi 9 janvier. Et il est 6h, très bon réveil. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mercredi 9 janvier, c'est donc le journal de Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
La collecte censée soutenir la famille du boxeur qui a frappé 2 gendarmes samedi dernier à Paris, suspendu. Que dit la loi dans ce genre de cas? Élément de réponse dès le début de ce journal. Chantal Jouanneau se retire du pilotage du grand débat voulu par le chef de l'État après la polémique suscitée par son salaire. Débuter les cours plus tard au lycée, une idée qui fait son chemin et qui pourrait être testée dès la rentrée prochaine en Ile-de-France.
Europe 1.
La plateforme Litchi en ligne a clôturé la cagnotte qui avait été créée pour soutenir Christophe Détinger, dont la garde à vue a été prolongée. Boxeur accusé d'avoir agressé 2 gendarmes samedi dernier à Paris en marge de la mobilisation des Gilets jaunes. En 24 heures, 140 000 euros avaient été versés par plus de 8 000 donateurs. Plusieurs ministres sont montés au créneau pour dénoncer une collecte indécente. Que dit la loi concernant ce genre de soutien financier? Pauline Jacquot.
La défense de Litchi est claire, cette cagnotte est légale. Les dépenses seront vérifiées pour ne régler que les frais d'avocat. 115 000 euros, c'est suffisant, selon la plateforme, car il existe une loi. Récolter de l'argent sur Internet pour payer ses avocats, oui, mais hors de question de payer ses amendes ou ses dommages et intérêts. Pour l'avoir fait, Dieudonné avait écopé d'une amende de 6 000 euros en 2015. Les soutiens de Tariq Ramadan avaient eux aussi lancé une cagnotte en ligne l'an dernier, un peu plus de 100 000 euros en quelques jours. Elle n'avait pas été clôturée car Ramadan n'était pas condamné. Impossible donc de l'accuser formellement de vouloir financer des sanctions judiciaires. Même chose pour Christophe le boxeur, aucune condamnation à ce jour. Mais sur ce coup, dit un avocat, Litchi a sans doute préféré se couvrir face à la médiatisation de l'affaire. Renaud Muselier, le président LR de la région PACA, a en tout cas réagi en lançant à son tour hier une cagnotte en soutien, dit-il, aux forces de l'ordre.
Et ce matin, cette cagnotte compte plus de 151 000 euros. Collectés. Le grand débat voulu par Emmanuel Macron doit officiellement débuter le 15 janvier, mais voilà, celle qui était censée le piloter renonce. Chantal Jouanneau a estimé que la polémique sur son salaire était légitime et que les conditions de sérénité nécessaires n'étaient pas assurées. Son salaire a été évalué à plus de 14 000 euros bruts mensuels. Coup d'envoi des soldes aujourd'hui en France, les commerçants misent beaucoup sur les rabais pour tenter de combler le manque à gagner dû à la mobilisation des Gilets jaunes.
830 emplois menacés dans le département de la
Les 3 usines du papetier français Arjou-Wiggins ont été placées hier en redressement judiciaire. Aucun repreneur en vue. C'est dans la petite commune de Bessé-sur-Bray que l'inquiétude est forte. Arjou y emploie 568 personnes. La perspective d'une éventuelle fermeture angoisse toute la population. Le reportage du correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, François Coulon.
On l'appelle la papette. Arjou-Wiggins emploie ici le quart de la population. C'est le boom du numérique et la flambée de la pâte à papier qui pourrait lui être fatale. Alain Menu, délégué CGT.
On nous dit on va peut-être arrêter les machines parce qu'on n'a pas d'argent. Si demain ça fermait, ça serait une catastrophe économique. Ça serait un désert la région. On va se battre, on va pas laisser faire. Et puis on va bloquer l'usine. Faut pas croire que l'usine, ils vont venir chercher du matériel d'ici, voire du papier. Non. Non, on va bloquer l'usine. S'il le faut, on le fera.
En décembre, un sauveur néerlandais a failli racheter les usines avant de se raviser. Depuis, les 568 salariés de BC vivent dans l'angoisse.
J'ai quitté mon emploi parce que j'ai eu l'opportunité de rentrer à la papeterie. 2 mois après, j'ai plus de travail. 2 enfants, on vient d'acheter une maison. Plus de travail, clairement ça me fait chier.
S'il n'y a plus Arjou à baisser, je vois pas ce qu'il y a d'autre à baisser. On vit au jour le jour.
La papeterie construite au 19e était l'ultime poumon économique du secteur, monsieur le maire Jacques Lacoche.
Et c'est comme si on recevait un coup de marteau. On est complètement effondré. On va assister à quelque chose d'épouvantable parce qu'il y a aussi le commerce qui va en pâtir, il y a tout. c'est le raz-de-marée, quoi. Ça me donne envie de hurler.
Le redressement judiciaire sera réexaminé le mois prochain à Nanterre. Bessé-sur-Bray, François Coulon, Europe 1.
Le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné hier soir à 6 mois de prison avec sursis un gendarme de 49 ans. L'homme était accusé d'avoir blessé à la main en 2014 une opposante au projet de barrage à Sivens dans le Tarn. Il avait jeté une grenade de désencerclement à l'intérieur d'une caravane où se trouvait la jeune femme et d'autres zadistes. 4e anniversaire de la prise d'otage de l'Hypercacher. Une cérémonie du CRIF est organisée ce soir en hommage aux victimes devant le magasin. 4 personnes étaient mortes, 3 policiers et un otage avaient aussi été blessés.
Une question ce matin, Céline, qui aurait pu bouleverser ma jeunesse. Les cours au lycée vont-ils bientôt commencer plus tard ?
Oui, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, est en tout cas favorable pour tester la proposition faite par Valérie Pécresse. La présidente de la région Île-de-France souhaite ainsi désengorger les transports parisiens. L'idée pourrait être testée dès la rentrée prochaine. Virginie Salmen.
L'idée part d'une étude américaine de chercheurs en neurosciences. Ils ont observé une centaine d'élèves de 16 ans qui commençaient les cours à 7h50 et qu'on a décalé à 8h45. Résultat, ils se sont mis à dormir 34 minutes de plus par nuit en moyenne au bout de quelques mois. Mais aussi, leurs résultats scolaires se sont améliorés et l'absentéisme a diminué. De bonnes raisons de tester ces horaires en France pour Sylvie Royan-Parola, spécialiste du sommeil, et pas seulement pour céder au penchant naturel des ados.
C'est plus compliqué que d'être feignant ou pas feignant. Il y a un comportement effectivement le soir qui a tendance chez l'adolescent à essayer de faire plein de choses le soir parce qu'ils sont tranquilles. Mais il y a aussi sur le plan biologique une sensibilité à la lumière qui est beaucoup plus forte et qui fait que leur horloge interne a tendance à se décaler avec un endormissement plus tardif et un réveil plus tardif. Et plutôt que d'avoir des adolescents constamment en privation de sommeil, si on peut faire des aménagements horaires de ce style, c'est bien.
À condition que les parents jouent aussi leur rôle et poussent leurs ados à aller se coucher. Autre argument en faveur de ces nouveaux horaires, désengorger le métro et le RER le matin. Les lycéens arriveraient donc après le pic de 8h30.
Virginie Salmen pour Europe 1.
C'était le journal de Céline Kallmann. Et Céline, journaliste de tempérament et même, disons-le sans détour, journaliste engagée, comme a pu le découvrir Nico Salagas hier.
C'est la période des entretiens individuels dans les entreprises.
Ça sert à rien, les entretiens individuels. On te fait croire qu'on t'écoute, mais ça ne sert à rien.
Oh là là, mon Dieu.
Ah bon entendeur, si quelqu'un ici comptait évaluer Céline.
Europe 1.
Il est 6h07, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et alors que le mouvement des Gilets jaunes se poursuit, Fabrice Dalméda revient ce matin sur un droit protégé en France par la loi depuis le 19e siècle, le droit à manifester.
Ça ne sert à rien.
Merci Céline, on demandera quand même son avis à Fabrice Dalméda. Bon.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Il est 6h08, Mathieu Noël.
Oui Céline, justement, lors d'un point sur la météo avec vous, un ciel perturbé sur l'est du pays.
C'est vrai, avec des averses, voire de la neige en pleine pour le Grand Est, la Franche-Comté, ça pourrait même déborder en Bourgogne et sur le nord de la région Rhône-Alpes. De la neige, on en aura aussi sur les reliefs toute la journée. Soleil encore avec toujours ce vent soutenu près de la Méditerranée. Nuages et possibles averses entre les Hauts-de-France, l'Auvergne en passant par la région parisienne. Et puis, nuages éclaircis pour les autres, pour l'ouest du pays. Les températures sont fraîches, mais de saison. Une moyenne cet après-midi de 4 à 8 degrés, l'en fera 6 à Paris.
Merci Céline. Eva Rock, quelle question allez-vous poser à nos auditeurs ce matin ?
En ce début de solde aujourd'hui, à l'heure où on parle de pouvoir d'achat, est-ce que vous attendez ce moment ? Eh bien, il y a beaucoup de gens comme Pascal ou Carole qui nous disent « c'est devenu un peu inutile ces périodes de solde parce qu'il y a des promos toute l'année ». Et Thierry confirme « il n'y a pas de solde pour moi de bon prix, il y en a toute l'année et acheter que quand on en a besoin, ça permet d'éviter le gaspillage ». Mais enfin, Romarix, lui, nous dit « j'ai attendu avec impatience ce jour pour me racheter une cafetière afin de remplacer celle qui a lâché samedi dernier. Une semaine, ça m'a semblé être une éternité », nous dit-il. Continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci Eva, merci chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Il est de retour en studio, c'est un fiefé coquinou fricotant dangereusement avec une collègue de travail nommée Céline Dacosta. Pris le doigt dans le pot de confiture par sa femme qui a fini par écouter Europe 1 hier par hasard, il a tenté de poser hier soir les bases d'une nouvelle relation de confiance au sein de son couple.
Chacun a le droit de faire ce qu'il veut.
La réponse de Madame Lacroix a été assez claire. Allez GG, on passe au journal des sports. À la une du JDS, les footballeurs lyonnais en panne de tout.
C'est la formule ce matin en une du quotidien Le Progrès, en panne de réussite, de chance un peu, mais aussi d'envie. Les Lyonnais sont ce matin éliminés de la Coupe de la Ligue, compétition qu'ils ambitionnaient ouvertement de remporter cette saison, battue hier soir 2-1 en quart de finale à domicile par les joueurs de Strasbourg, des Alsaciens enthousiastes qui décidément font tomber les grosses cylindrées dans cette Coupe cette année avant Lyon. Il y avait eu Marseille et Lille, forcément ça ouvre l'appétit de l'entraîneur alsacien Thierry Loret.
Ce serait bête de s'arrêter en demi, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire ? On voulait au moins faire un parcours dans une des deux coupes. Voilà, on n'a pas l'ambition de tout gagner, mais on voulait faire au moins un parcours dans les deux coupes. Si on se maintient et qu'on fait un petit parcours dans une coupe, je pense que ça fera une bonne saison pour un club qui était promu l'an dernier.
Propos recueillis par Pascal Auclair aujourd'hui. Les trois autres quarts de finale, 18h45 Monaco-Rennes, 21h05 Bordeaux-Le Havre et PSG-Guingamp. Deux résultats de matchs en retard de Ligue 1, 18e journée hier soir, Nantes-Montpellier 2-0, Amiens-Angers 0-0.
Le handball, Jérôme, et les Bleus espèrent écrire une nouvelle page glorieuse.
Ils s'envolent aujourd'hui pour Berlin où ils affronteront vendredi le Brésil. Premier match pour eux du Mondial qui démarre demain en Allemagne et au Danemark. Marque des Français qui ne visent rien d'autre qu'un 7e titre mondial. Et pour cause, ils arrivent double champion du monde en titre. Un triplé serait inédit. Le gardien Cyril Dumoulin, Piaf.
Franchement, on est tous très très impatients de partir, de décoller. On a envie de se jeter dans cet avion, d'atterrir à Berlin le plus vite possible, de prendre nos quartiers, de découvrir la salle, et puis de se lancer dans le grand bain, dans la compétition. Encore une fois, on a bien bossé, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est pour ces matchs-là qu'on a bossé, donc on a envie d'aller en profiter, de croquer dedans très rapidement. Ouais.
Et la star des Bleus, Nicolas Karabatic, ne sera pas tout à l'heure dans l'avion, blessé à un pied, mais tant il s'en remet vite qu'il pourrait rejoindre ses coéquipiers en cours de compétition. C'est autorisé par le règlement. La compétition, vous la suivrez du premier au dernier but sur Europe 1. Et juste avant de décoller aujourd'hui, encouragement présidentiel, Emmanuel Macron inaugurera à Créteil le tout nouveau camp de base français, la maison du handball.
Le Dakar, Jérôme, est la deuxième étape pour Sébastien Loeb.
Au volant de sa Peugeot, le pilote français s'impose entre Pisco et San Juan de Marcona au Pérou pour 8 petites secondes devant l'Espagnol Roma. Un rendez-vous rugby aujourd'hui, 15h30. Le sélectionneur des Bleus, Jacques Brunel, doit annoncer la liste des joueurs retenus pour le tournoi des 6 nations qui démarre le 1er février. Il pourrait appeler pour la première fois le deuxième ligne de Montpellier, Paul Willemse, sud-africain tout juste naturalisé français. Cette liste préfigurera en grande partie celle du Mondial dans 8 mois au Japon.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Madeleine de Proust pour certains, mais ô combien d'actualité. Toujours les albums Panini, surtout connus pour les vignettes des footballeurs. Alors pour 2018, la maison d'édition italienne annonce un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros. C'est pratiquement le double de 2017, ce bien sûr grâce au Mondial.
Précise d'ailleurs que si quelqu'un a Mbappé, j'ai un Messi que j'échange contre Mbappé. Je précise, c'est pour finaliser mon album Panini de la Coupe du Monde. Et en plus, c'est vrai. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Merci Jérôme. Et tout de suite, on retrouve celui qui soit a lu beaucoup de livres sur des civilisations cheloues, soit a consommé trop de stupéfiants. Alors Fabrice Almeida, comment s'est passé votre réveillon ?
Les prêtresses s'unissaient aux dieux pour accoucher d'un nouveau cosmos.
Ah oui, deuxième hypothèse donc.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Almeida.
Bonjour à tous.
Vous revenez ce matin sur les propos du Premier ministre Édouard Philippe qui souhaite modifier le droit de manifester pour répondre à la crise des gilets jaunes et des casseurs. C'est nouveau ce type de réaction ?
Pas vraiment. Depuis la mise en place du droit de manifester en 1789, les régimes républicains ne se sont pas privés de le limiter. Déjà, face à l'agitation des paysans contre les impôts et des ouvriers inquiets du chômage, la Seconde République adopte le 7 juin 1848 une loi pour interdire toutes les manifestations menaçant l'ordre public. Mais cela n'empêche pas la révolte des paysans à Agen, dans la Creuse, le soulèvement des ouvriers à Paris ce même mois, chacun noyé dans le sang. Donc, le 30 juin 1848, une nouvelle loi bannit les réunions sur la voie publique sans autorisation.
Mais sous la Troisième République, on avait bien le droit de manifester.
Oui, mais certains républicains, comme Clémenceau, considèrent que la manifestation est une tolérance, donc les abus et violences doivent être réprimés. Ainsi, en 1893-94, ils votent les lois dites scélérates contre les anarchistes qui permettent des perquisitions et des arrestations préventives. En 1905, ils restreignent les appels à la manifestation des catholiques opposés à la séparation de l'Église et de l'État. Et en 1935 encore, les députés créent l'obligation de déclarer les manifestations pour contrôler l'activité des ligues d'extrême droite. En somme, à chaque crise, sa réponse.
Et comment ça se passe sous la Ve République ?
Ben pareil. En 1970, survient la fameuse loi dite anti-casseurs. Son but est de briser les groupuscules maoïstes et trotskistes qui ont fait mai 68. Les peines de prison contre les organisateurs des manifestations et les auteurs de violences sont alourdies. Puis, en 1980, la loi dite Sécurité et Liberté renforce les capacités de contrôle de la police pour briser notamment l'agitation de l'extrême gauche. Ainsi, la République bloque-t-elle les manifestations quand l'ordre est menacé ? Mais il y a une immense différence avec les dictatures. Elle maintient toujours les autres libertés publiques indispensables à la démocratie.
Merci beaucoup Fabrice Delmeda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1. Et il est 6h16, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font. Et l'actualité cette semaine, vous le savez, car Europe 1 couvre largement l'événement, c'est le CES, le Consumer Electronic Show de Las Vegas. Un concentré des dernières innovations technologiques qui s'apprêtent à bouleverser votre quotidien en 2019. À 6h20, nous serons en ligne de Las Vegas avec Fred Potter, dirigeant de Netatmo, un des pionniers de la French Tech, entreprise spécialisée dans la création d'appareils connectés pour la maison. La preuve que les Français n'ont plus rien à envier aux Américains, n'est-ce pas Céline ?
I mean, I wanna shame on you.
Oui, enfin dans le domaine de la high-tech, s'entend.
Il est 6h20, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Grand débat national, Chantal Jouanneau jette l'éponge après la polémique suscitée par son salaire. La présidente de la Commission nationale du débat public a décidé de se retirer du pilotage du grand débat voulu par le chef de l'État. La cagnotte de soutien à l'ancien boxeur poursuivi pour avoir agressé 2 gendarmes samedi à Paris a finalement clôturé devant le tollé suscité par l'initiative. D'autres cagnottes ont été créées pour soutenir cette fois les forces de l'ordre. Enfin, coup d'envoi des soldes d'hiver aujourd'hui pour 6 semaines. La période s'annonce cruciale pour les commerçants, lourdement impactés par les manifestations des Gilets jaunes.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce mercredi 9 janvier. Et dans l'actualité du jour, il y a aussi le CES, Salon de l'électronique grand public de Las Vegas. Un rendez-vous incontournable au cours duquel la French Tech s'illustre particulièrement bien depuis plusieurs années. Bonjour Fred Potter.
Bonjour.
Vous êtes le créateur et patron de Netatmo, société qui produit des objets connectés pour la maison, stations météo, thermostats, vasistas, radiateurs, prises électriques, caméras de surveillance. Vous avez pris l'habitude chaque année de dévoiler un nouvel appareil à l'occasion de ce salon. Quelle est la nouveauté 2019 ?
Donc cette année au CES 2019, on présente la sonnette vidéo connectée. Donc c'est un petit appareil qui remplace le bouton qui est devant votre porte et sur lequel les visiteurs sonnent. Et qui, lorsque un visiteur va appuyer dessus, non seulement va faire sonner la sonnette, mais va aussi vous envoyer une notification sur votre smartphone qui va vous permettre de voir, si vous n'êtes pas chez vous, les visiteurs à votre porte, de leur parler et éventuellement de donner des instructions à un livreur pour qu'il aille chez le voisin et d'avoir ainsi la possibilité de savoir qui est à votre porte lorsque vous n'y êtes pas.
Alors, est-ce que ça signifie que vous attendez le CES pour présenter vos innovations ?
Alors effectivement, on a un rythme de présentation des produits qui est calé sur le CES. On présente les produits au CES qui sont pas totalement terminés. Donc la sonnette ne sera commercialisée qu'à partir de cet été. L'idée est de présenter à nos clients distributeurs du monde entier les nouveautés pour qu'elles soient bien dans les rayons au moment de la période phare des fêtes de Noël de l'an prochain.
Alors est-ce que tous ces objets ont dépassé le stade du gadget ?
Oui, clairement, aujourd'hui, avec des produits comme notre thermostat, on est vraiment rentré chez monsieur et madame tout le monde. La raison pour ça, c'est parce que des marques comme Netatmo ont réussi à faire des produits qui sont à la fois très très simples à utiliser, parce que les consommateurs ne cherchent pas des objets compliqués, qui sont au juste prix, et qui rendent un vrai service simple, qui rendent la maison plus sûre, plus confortable, plus économique. Et donc voilà, petit à petit, on va dire, ces technologies percolent à travers le grand public.
Alors Fred Potter, on parle de plus en plus de sobriété numérique pour économiser des ressources et de l'énergie. Est-ce que la maison connectée, c'est vraiment l'avenir ?
Alors oui, la maison connectée, c'est l'avenir. Quel est l'avantage d'une maison non connectée ? C'est une maison qui va peut-être chauffer alors que vous n'y êtes pas. Si la maison est connectée, la maison va par exemple arrêter la chaudière si vous n'y êtes pas. Donc la maison connectée, elle est plus économique, elle est plus sûre puisque vous allez être averti de ce qui s'y passe, y compris lorsque vous n'y êtes pas. Et elle est plus confortable parce que vous allez avoir une température plus constante, parce que vous allez avoir par exemple une qualité d'air meilleure chez vous avec un produit qui s'appelle Velux Active qu'on fait avec Velux qui permet d'automatiser l'aération de la maison. Et tout ceci, on va dire, pour des prix qui sont aujourd'hui tout à fait rentrés dans les budgets du grand public.
Alors c'est vrai que quand on vous entend, on se croirait dans un film de science-fiction. Est-ce que c'est un marché exponentiel en matière de domotique ou c'est limité en matière d'innovation où vous savez que vous êtes arrivé au maximum de ce qu'on peut faire en matière d'objets connectés ?
Alors on sait que le début, hein, ça commence. Le signe qui a été très important pour nous, ça a été l'an dernier de voir des promoteurs comme BNP Paribas qui ont décidé de livrer des logements connectés dès le début, hein, dès la remise des clés. Et puis en parallèle, il y a environ 6 à 700 000 Français qui font des rénovations complètes de leur logement chaque année. Et là encore, l'éclairage devient connecté à l'occasion de la rénovation. La sécurité se met en place. Et puis on a une troisième catégorie de Français qui refont une pièce, ajoutent une fonctionnalité, mettent un détecteur de fumée connecté Netatmo. Et on a vraiment ces trois mouvements, on va dire, sur les trois segments de marché qui se déroulent en parallèle. Voilà, donc la maison connectée, c'est une réalité. Et on va, en quelques années, franchir le seuil de 50%, qui est le seuil clé, c'est-à-dire le moment où vous avez plus de 50% des logements qui sont équipés au moins d'un objet connecté pour la maison.
Fred Potter, on voudrait aussi profiter de votre expérience parce que vous faites partie des anciens du CES. La première fois que vous êtes venu à Las Vegas, je crois, c'était en 2012, si je ne me trompe pas, il n'y avait que trois entreprises françaises. C'était l'ère du tout est possible. Vous vous en souvenez encore ?
Oui, on était tout petit, c'était attachant. On a eu beaucoup de chance, effectivement, dans le développement de l'entreprise. Un conseil pour ceux qui veulent aller au CES présenter leur entreprise, préparez bien.
mais pour autant, tout n'est pas rose, hein, dans le meilleur des mondes pour les entreprises de la French Tech. Beaucoup disparaissent d'une édition à l'autre. Comment expliquez-vous la fragilité de ces entreprises ?
Effectivement, il y a beaucoup de gens qui considèrent que le CES est un aboutissement et donc ils vont en disant ça y est, j'ai été au CES. En fait, le CES, c'est une étape, il faut vraiment savoir pourquoi on y va. Ce qui est important, je reviens là-dessus, et c'est vraiment l'ADN de Netatmo, c'est de faire des produits utiles qui rendent un vrai service aux gens, qui sont au juste prix et qui sont vendus sur les marchés internationaux. Et si on n'y arrive pas, ben on ne revient pas l'année d'après.
Alors j'ai bien compris, c'était un marathon pour vous. Est-ce que vous avez quand même eu, au cours de vos voyages dans les allées du CES, un coup de cœur pour une start-up ou un produit de cette édition 2019?
Alors pas encore, moi en général c'est le vendredi que je fais le tour du salon, voilà, je fais ça le dernier jour, c'est plus calme.
Est-ce que vous vous souvenez d'un gadget que vous avez acquis lors d'un CES précédent et que vous avez encore avec vous ?
Alors non, que j'ai pas acquis, mais je me souviens très bien de produits qui au CES ont fait un très bon moment presse, parce que l'histoire était drôle, tout le monde se souvient de la fourchette connectée.
Oui.
Si vous mangez trop vite, vous allez prendre du poids, et donc la fourchette avait un vibreur qui s'activait si vous mangez trop vite. Donc évidemment c'était cocasse. Mais le produit passait pas au lave-vaisselle déjà, donc c'était peut-être pas une très bonne idée.
Merci Fred Potter, je rappelle que vous êtes donc le créateur de la société Netatmo spécialisée en domotique.
Merci beaucoup, au revoir.
Europe 1,
il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient avec son cortège de grisailles, de pluie et même de neige pour les plus chanceux.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Avant de retrouver le journal de 6h30, voici la météo de Céline Dacosta. L'arrivée de la neige en plaine dans le nord-est,
oui,
c'est pour aujourd'hui.
De faibles chutes de neige qui pourraient se produire dans le Grand Est, la Franche-Comté, dès ce matin. En altitude, on parle même de bonnes chutes de neige, puisqu'on attend jusqu'à 15 cm sur les sommets. On aura du vent également entre les Ardennes et l'Alsace. Des averses ne sont pas à exclure sous un ciel nuageux entre les Hauts-de-France, la région parisienne, et puis en descendant vers l'Auvergne. Pour la partie ouest, de la Bretagne-Normandie jusqu'à la région Midi-Pyrénées, ce sera une alternance de nuages et d'éclaircies, un temps sec, de la neige sur les Pyrénées dès 900 mètres d'altitude et près de la Méditerranée encore du soleil avec du vent, de bonnes rafales, toujours comme hier, un Mistral et Tramontane qui pourraient souffler jusqu'à 110 km à l'heure. Les températures sont en baisse mais restent de saison, 0 à 4 degrés ce matin, 4 à 6 près de la Méditerranée, jusqu'à 10 degrés localement en Corse.
Et cet après-midi ?
Un petit peu plus de soleil sur la façade ouest avec une averse possible sur le Cotentin, nuages éclaircis entre les Hauts-de-France et l'Auvergne avec là aussi un risque de pluie, de la neige en altitude, encore quelques flocons en plaine sur l'est, toujours du soleil près de la Méditerranée avec ce vent, quelques coups de tonnerre sur l'ouest de la Corse. La moyenne pour les températures cet après-midi ira de 4 à 8 degrés, un petit peu plus toujours près de la Méditerranée.
Merci Céline, restez avec nous dans 30 secondes, le journal de 6h30 sur Europe 1.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 où l'info et le rire vont main dans la main grâce à la joie de vivre communicative de mes complices Eva Rock et Céline Dacosta. Au fait, Céline, vous savez quoi ?
T'as fait un crumble ?
Non, j'ai pas eu le temps, mais j'ai calé les trois fantastiques. Politique, économie, médias, nos experts répondent aux questions que vous vous posez, notamment ce matin, quelle est la plus grosse entreprise du monde ? Que nous réservent les nouvelles normes anti-pollution qui s'annoncent draconiennes ? Ou encore, que devient Renault ? Les réponses juste après le journal de celui qui, en 2019, a pris la bonne résolution, un peu dingue, de devenir enfin modeste.
On m'appelle le funambule du news.
Il y a du chemin. Voici le journal de David Doucan.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Le journal de 6h30, bonjour David Doucan.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Les soldes d'hiver commencent aujourd'hui après deux mois de crise. Les commerçants misent dessus pour limiter la casse. Le grand débat national est-il en train de se transformer en piège pour le gouvernement? Son organisatrice, Chantal Joanneau, a jeté l'éponge. Un très mauvais signal à moins d'une semaine du début de la concertation. Après le ralliement de Thierry Mariani, l'architecture pour la liste du Rassemblement National pour les Européennes se précise. Information du service politique d'Europe 1 à suivre dans ce journal.
Europe 1.
Sauver les meubles, voilà le mot d'ordre des commerçants ce jour d'ouverture des soldes d'hiver. Selon la Fédération de la Distribution et le Conseil National des Centres Commerciaux, le manque à gagner lié aux perturbations des Gilets jaunes s'élèverait à 2 milliards d'euros en novembre et en décembre. Les 6 semaines de remise qui commencent aujourd'hui prennent donc l'allure cette année d'un plan hors sec de la consommation. Aurélien Fleurot.
Un magasin attaqué par des casseurs, 65 000 euros de dégâts, 3 samedis sans ouvrir, 25% de chiffre d'affaires perdu. Une fin d'année compliquée pour Vianney Wett qui a 2 boutiques de vêtements pour hommes à Paris. Le besoin de trésorerie devient urgent.
On a eu 3 samedis de fermeture complète, donc sur lesquels on n'a pas pu faire de chiffre d'affaires du tout. Et donc il est vital de faire rentrer de l'argent pour payer les charges, payer les salaires. Et en même temps, on se retrouve avec des stocks importants qu'il va falloir liquider de manière plus importante que les ans passés et qu'il va falloir écouler en janvier.
La Fédération nationale de l'habillement a constaté une baisse moyenne de 20% du chiffre d'affaires de ses 35 000 adhérents et c'était même moins 30 à moins 50% pendant la semaine entre Noël et le jour de l'an. Pas de quoi rendre optimiste Eric Mertz, le président de la Fédération.
On ne sortira pas gagnant de ces soldes. Ce n'est pas possible. On ne rattrapera pas le retard. Et ce ne sont pas les mesures que certains préfets ont mises en place avec des ouvertures tous les dimanches de janvier, d'ailleurs auxquelles très peu de commerçants souhaitent adhérer, que ça apportera du supplément.
La seule note positive est pour les clients. L'Alliance du commerce, qui comprend notamment les grands magasins, s'attend à de très fortes démarques dès aujourd'hui.
Aurélien Fleurot du service économie d'Europe 1. Le président s'est-il tiré une balle dans le pied en annonçant un grand débat national pour répondre à la colère de nos concitoyens? Celle qui était censée l'organiser a annoncé qu'elle y renonçait. Chantal Joanneau, qui était au centre d'une polémique autour de son salaire, a décidé de se retirer du pilotage de cette concertation. Elle reste cependant la présidente de la Commission nationale du débat public.
Et donc, comment ça va se passer du coup, David?
Eh bien, Matignon a promis d'installer une nouvelle structure d'organisation en fin de journée après le séminaire gouvernemental qui doit se dérouler cet après-midi à l'Élysée. L'Élysée, justement, qui fait face à un cafouillage aussi, déclenché par Bruno Le Maire. Dimanche, sur notre antenne, le ministre de l'Économie laissait entendre que le gouvernement pourrait renoncer à la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% des Français les plus aisés. Ensuite, il a rétro-pédalé. Et au final, hier soir, la présidence faisait savoir que cette question serait abordée dans le cadre du grand débat national.
Et sur le front de l'ordre public, la justice suit son cours avec le procès aujourd'hui de manifestants violents.
Oui, ils seront 6 tout à l'heure devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils avaient été interpellés lors de l'acte 3 des Gilets jaunes, celui qui avait été marqué par le saccage de l'Arc de Triomphe. 6 jeunes gens issus de groupuscules d'ultra-droite. Chloé Triomphe.
Ils s'appellent Marc, Vianney, Aloïs, Xavier, Charles ou encore David et sont âgés pour la plupart d'une petite vingtaine d'années. Des jeunes garçons au CV prometteur, si l'on en croit leurs études en cours, droit, licence de maths, école de commerce, double licence d'histoire et de sciences politiques. Certains issus de bonnes familles, voire de la très ancienne aristocratie française. Mais sous leur apparence très lisse, de jeunes gens polis lors de leur première comparution devant le tribunal, tous sont soupçonnés d'être proches de la mouvance radicale et violente d'extrême droite et héritière de l'ancien GUD, comme le Bastion Social ou les Zouaves Paris, au code proche des hooligans. Ce qui leur est reproché aujourd'hui, ce sont des violences, et particulièrement vis-à-vis des forces de l'ordre. L'un avait été vu un pavé à la main, des dégradations, construction de barricades par exemple, des jets de projectiles, bref, exactement le type de scène marquante de ce samedi 1er décembre et dont les images avaient frappé l'opinion. Tous ont été interpellés le vendredi suivant, juste avant l'acte 4, et l'un d'eux était en possession de plusieurs fusils et carabines.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe.
À suivre dans ce journal, les suites du ralliement de Thierry Mariani et Marine Le Pen. Information Europe 1, nous vous révélerons l'architecture de la liste RN pour les Européennes. À tout de suite.
Europe 1, il est 6h35. Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal, David Doucan, Europe 1, vous révèle l'architecture de la liste du Rassemblement National pour les prochaines européennes.
Oui, ralliement de Thierry Mariani, rajeunissement, féminisation. Adrien Beck a recueilli de nombreuses indiscrétions sur cette liste que Marine Le Pen présentera officiellement dimanche prochain.
C'est un tandem marqué par la jeunesse qui conduira la liste du Rassemblement National. Selon nos informations, Hélène Laporte, 40 ans à peine, sera numéro 2, juste derrière Jordan Bardella, 23 ans. Candidate aux législatives de 2017 dans le Lot-et-Garonne, elle n'est encartée au RN que depuis 4 ans. Nouveau visage donc, et deux transfuges de la droite qui font un peu figure d'exception. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Thierry Mariani, sera a priori dans le trio de tête, suivi un peu plus loin de l'ancien député UMP Jean-Paul Garot, tout comme l'intellectuel Hervé Juvin, chantre d'une écologie conservatrice, caution société civile de cette liste. Enfin, et peut-être aussi pour des questions de parité, Marine Le Pen s'appuiera sur des valeurs sûres, au moins trois femmes députées européennes sortantes en haut de la liste, sans oublier Nicolas Bay, actuel coprésident de groupe au Parlement européen. Sans le ralliement spectaculaire qu'elle pouvait espérer, Marine Le Pen remplit malgré tout l'objectif qu'elle s'était fixé pour sa liste. Un tiers d'entrants, un tiers de sortants et un tiers de ralliés.
Information signée Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Nous allons maintenant vous parler de la Cité des Dames. C'est un centre d'hébergement d'urgence qui a été inauguré début décembre dans le 13e arrondissement de Paris. Il est réservé aux femmes et il est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est un point de chute où les femmes peuvent rester 3 nuits maximum. Reportage Yasmina Katou.
Du café, une soupe, un lit, voilà entre autres ce que les femmes trouvent en poussant la porte de ce bâtiment flambant neuf. Une bulle de protection pour elles qui se sentent comme des proies dans la rue. Gracia, 38 ans, a fui un mari violent. Dès sa première nuit dehors, elle a été agressée.
Il y avait un homme qui me dérangeait pour dire que pourquoi je suis ici. Il va m'accompagner à la maison pour que je puisse dormir. Je suis en train de refuser, il me tirait jusqu'à une dame est apparue pour dire « Non, laisse-la tranquille. J'ai peur d'être violée. »
Comme toutes les femmes accueillies ici, Gracie a pu voir dès son arrivée une sage-femme, une psychologue et un assistant social. Mais ici, le personnel cherche avant tout à offrir un espace de tranquillité. Mathieu Darnaud, coordinateur du centre.
On leur propose d'emblée de se poser, de pouvoir respirer un petit peu. Et on revient vers elles après, une fois qu'elles ont pris leur marque. On essaie de garder une atmosphère la plus sereine possible. Elles ont besoin vraiment de respirer, de se sentir en sécurité. Ça a un côté très rassurant de pouvoir être entre femmes.
Ce refuge était une nécessité dans la capitale, où 2 sans-abri sur 5 sont des femmes.
Reportage signé pour Europe 1, Yasmina Katou.
Et à 7h45 tout à l'heure, Nikos Aliagas recevra sur Europe 1 la comédienne Corinne Maziero, elle-même ancienne SDF et qui joue dans le film Les Invisibles qui sort aujourd'hui au cinéma.
Un mot de football pour terminer, la déception lyonnaise. L'OL est éliminé de la Coupe de la Ligue, une compétition que Lyon ambitionnait pourtant de remporter, battue hier soir dès les quarts de finale à domicile par Strasbourg 2-1.
Merci, c'était le journal de David Doucan. David qui, on va pas se mentir, démarre 2019 avec le même entrain et la même fougue que l'Olympique de Marseille, sorti samedi de la Coupe de France par un club de 4e division. Hier, sa tension indiquait 7-2, soit la pression artérielle d'un bigorneau au repos. À un moment, j'ai cru qu'il allait carrément éclater en sanglots à l'issue d'un lancement.
Les précisions de notre correspondant à Los Angeles, Benoît Clerc.
Il faut se ressaisir, mon gars. Funambule du news, mec. Allez, on passe à la météo de Céline Dacosta. Alors Céline, quel temps pour la France aujourd'hui? Vous agitez un petit papier, mais vous savez, je suis presbyte, donc je ne vois pas grand-chose. Ah oui, un ciel plutôt clément sur l'ouest du pays.
Oui, c'est vrai, avec des éclaircies un temps sec. Pour les autres, c'est plus mitigé. Un nuage et risque d'averse entre les Hauts-de-France et l'Auvergne en passant par la région parisienne. Léger mieux cet après-midi sur ce secteur, avec le retour de quelques éclaircies, de la neige pour l'Auvergne des 300 mètres. Et puis de la neige, on en aura toute la journée sur les reliefs de l'Est. Et on pourrait avoir également quelques flocons en plaine entre le Grand Est, la Franche-Comté, la Bourgogne et le nord de la région Rhône-Alpes. Le soleil va continuer, lui, de briller près de la Méditerranée, au prix d'un vent fort, un Mistral et Tramontane qui pourrait souffler jusqu'à 110 km à l'heure.
Merci Céline.
Il est 6h41, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures au service de vos zygomatiques, certes, mais où l'on n'oublie pas notre mission première, vous informer. Vous apporter un éclairage argumenté sur l'actu pour se faire deux méthodes. Soit j'interviens moi-même, comme hier, sur le foot durant le journal des sports de Jérôme Lacroix.
Mais il y a combien de divisions, Jérôme?
Eh ben, 6, 7, au moins 7.
Oh, mais c'est incroyable.
Ah bah, oui, c'est...
C'est foot ou c'est gens qui jouent au foot?
Soit, et je pense que c'est quand même mieux, je laisse la dimension journalistique de cette émission à des professionnels qui ont vraiment quelque chose d'intéressant à dire, comme les trois fantastiques. Quelle est la plus grosse entreprise du monde? Que nous réservent les nouvelles normes anti-pollution qui s'annoncent draconiennes? Nos experts vous répondent. À tout de suite.
Il est 6h42. 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Chantal Jouanneau se retire du grand débat national. Elle reste présidente de la Commission nationale du débat public, mais a décidé de renoncer au pilotage de la grande concertation voulue par Emmanuel Macron. Chantal Jouanneau s'était retrouvée au cœur d'une polémique au sujet de son salaire qui s'élève à un peu plus de 14 000 euros brut par mois. Les soldes d'hiver commencent aujourd'hui. La secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, lancera officiellement l'événement aux Galeries Lafayette à Paris à 8h ce matin. Enfin, au 18e jour du shutdown, Donald Trump s'est exprimé solennellement depuis le bureau ovale. Le président a défendu son mur à la frontière mexicaine. Les démocrates refusent de lui allouer 5,7 milliards de dollars pour le bâtir. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a accusé Donald Trump de prendre les Américains en otage.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Alors que s'installe face à moi une des plus impressionnantes brochettes du journalisme contemporain, avec notamment ces pontes de la politique et de l'économie que sont Mickaël Darmon et Axel de Tarlé, je me faisais cette réflexion hier. C'est marrant comme on ne vit pas les moments de la même manière. Moi, par exemple, chaque matin, quand arrive la séquence des Trois Fantastiques, je suis très excité à l'idée d'entendre leurs éditos. Je ne peux penser à rien d'autre. Alors que Céline et Eva, elles, visiblement, peuvent. Puisqu'hier, alors que Mickaël Darmon évoquait les lignes de fracture au sein du gouvernement, voilà ce que sa chronique inspirait à Céline.
J'ai envie de manger indien. Hein, j'adore la bouffe indienne.
Moi aussi.
Ah, j'adore. Je sais pas, d'un coup j'ai envie.
Si vous êtes sage, je vous l'aurai un de fromage. Mais d'abord, Céline, s'il vous plaît, si ça vous gêne pas trop, écoutons comme les Trois Fantastiques.
Avec plaisir. Oui.
Eva Rock pour les médias, Axel de Tarlé pour l'économie et donc Mickaël Darmon pour la politique. Mickaël, on va commencer par vous. Le 12 novembre 2018, la métropole du Grand Paris a voté l'interdiction des vieux diesels d'avant 2001, ainsi que tous les véhicules immatriculés avant 1997 à l'intérieur du périmètre de l'autoroute A86. Les conséquences de cette décision peuvent être explosives. Pourquoi ?
Eh bien, retenez bien ce sigle, hein, ZFE pour zone à émissions faibles. Cela désigne le périmètre de la francilienne, l'autoroute de l'A86, sur laquelle plusieurs centaines de milliers de véhicules circulent par an. Donc les vieilles voitures diesel essence de plus de 20 ans seront interdites de circulation sur le territoire de 79 communes incluses dans la zone. La mesure est pour entrer en vigueur en juillet 2019. Pour la métropole, cette décision a tout d'abord un objectif de santé publique. Il faut savoir que 6000 morts prématurées par an donc le sont par les émissions de particules fines. De plus, le développement des ZFE devient une obligation européenne. On en compte 227 en Europe. En France, il n'y en a que deux seulement. Et François de Rugy s'est engagé à la création de 15 ZFE dans le pays d'ici 2020 dans le cadre de la future loi mobilité. Conséquence, près de 240 000 véhicules, sans compter les véhicules professionnels, cloués au parking, interdits de rouler à partir de juillet 2019. C'est le casse-tête à venir qui tombe plutôt mal en pleine révolte des Gilets jaunes et en pleine période officielle de l'écoute avec le grand débat national.
Alors, comment éviter que ça devienne un nouveau front de protestation en Île-de-France alors que la région est plutôt relativement épargnée par le mouvement des Gilets jaunes ?
Mais oui, c'est vrai. C'est là que la méthode est cruciale. Pour vaincre les oppositions de certains élus comme Jean-Didier Berger, le patron de toute la vallée sud d'Île-de-France, eh bien, il n'y aura pas de verbalisation des véhicules interdits jusqu'en 2021, le temps d'installer un réseau de caméras. Pour Patrick Ollier, le président de la métropole du Grand Paris, 7 millions d'habitants quand même. L'enjeu est d'aider à la transition et au changement des voitures interdite par des primes à la casse. Problème, disent les élus opposants, l'enveloppe de l'État ne sera jamais suffisante et les élus dénoncent un agenda hâtif et ils dénoncent également un projet socialement, économiquement injuste puisque, on l'a dit, même les véhicules professionnels seront frappés d'interdiction de rouler. Alors, la ZFE pour zone à faible ou zone à fort enthousiasme à suivre, on verra. En tous les cas, voilà un nouvel exemple de l'impact permanent de la transition énergétique sur nos vies quotidiennes.
Merci beaucoup Mickaël Darmon pour cet éclairage politique. On passe à l'économie avec vous Axel de Tarlé. J'avais un premier lancement qui était écrit d'une certaine manière et vous avez corrigé pour ajouter du fun dans votre chronique parce que vous êtes aussi un showman de l'économie. Et donc je vous pose la question, quelle est la plus grosse entreprise du monde Axel ?
Ben oui, j'aime bien les quiz.
je sais.
Alors, je vous donne un indice, c'est une GAFA. Donc GAFA, vous allez le faire
Amazon.
Entre
Apple.
Eh oui, c'est Amazon.
Mais ne donnez
Amazon.
Pas la réponse tout de suite, il voulait faire le quiz pour créer du suspense. Ah, elle a gâché votre effet, je suis
désolé.
Vous êtes
forte, Eva, parce qu'au début d'année, c'était Apple, puis ce fut Microsoft, et maintenant, c'est Amazon. Amazon qui est passé devant tout le monde avec une valeur boursière de 787 milliards de dollars. C'est l'équivalent du PIB des Pays-Bas, ça vous embouche un coin.
Le PIB des Pays-Bas, voilà. Ça, vous l'avez mis juste pour le fun aussi.
Non, ce qui est intéressant, c'est pourquoi et comment Amazon est devenue la première entreprise du monde. Ce qui est très intéressant, c'est qu'Amazon n'est pas devenue la première entreprise du monde en faisant des bénéfices. Contrairement
à Apple,
pourquoi c'est devenu l'entreprise, au début d'année, la plus grosse entreprise du monde ? Parce qu'il faisait 60 milliards de bénéfices, donc ça fait beaucoup de dividendes, donc ça monte. Amazon, c'est peu de bénéfices, c'est 3 milliards, c'est moins que nos champions du CAC 40, c'est beaucoup moins en tous les cas que les 60 milliards d'Apple. Pourquoi Amazon est devenue l'entreprise la plus valorisée du monde ? Parce qu'Amazon a une ambition folle une ambition démesurée, à savoir faire tout et partout dans le monde. Amazon, je vous rappelle au début, c'était un modeste vendeur de livres sur Internet. Et puis, ils se sont mis à vendre de tout, y compris dans des magasins physiques. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, ils ont racheté une chaîne de magasins, Whole Foods. Et maintenant, ils font également de la banque, de l'assurance, du cinéma, vous savez, il y a des vidéos prime, là, de la musique, de la santé, de l'immobilier, des téléphones portables. Alors, ça ne marche pas à chaque fois, mais Amazon a une méthode redoutable pour pénétrer tous les secteurs. Avec cette maxime, c'est votre marge est mon opportunité. Dès qu'une entreprise gagne de l'argent quelque part, Amazon dit, bah moi je vais faire la même chose que vous, mais moi je ne vais pas gagner d'argent. Comme Amazon a des actionnaires très patients, du coup le concurrent il doit se battre face à quelqu'un qui dit, moi ça m'est égal de ne pas gagner d'argent pendant 5-10 ans, je vais vous épuiser et à la fin je vais gagner la bataille.
C'est affreux.
Ben oui, c'est affreux. Et alors la dernière arme d'Amazon pour tout faire, c'est ce petit assistant vocal, vous savez, qui s'appelle Alexa.
Ah oui, je sais, on l'a testé, ici même.
Ils en ont vendu 100 millions dans le monde. Donc c'est Alexa allume la lumière, Alexa met de la musique. Donc la musique, ça va être de la musique Amazon. Alexa monte le chauffage, Alexa ferme la porte à clé, Alexa commande-moi une pizza Amazon. Donc Amazon s'est ainsi invité dans 100 millions de foyers dont il est devenu le majordome, l'indispensable compagnon de la maison. Vous voyez, c'est cette ubiquité qui est la clé d'Amazon et qui l'a propulsé comme la première entreprise du monde, 800 milliards de dollars, le PIB des Pays-Bas, vous disais-je.
Mais quand on vous écoute, Axel, on se dit que rien ne peut arrêter Amazon.
Si, il y en a un qui va arrêter Amazon. Donald Trump.
Toujours lui.
Je vous jure, Donald Trump est en pétard contre Amazon. Il faut savoir qu'Amazon aux États-Unis, c'est 50% des ventes en ligne.
Ils ne payent pas leurs impôts aux États-Unis.
Non, mais alors en plus, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a la mauvaise idée de posséder le Washington Post, qui est très méchant avec Donald Trump. Donc Donald Trump a dit, il faudrait maintenant que l'antitrust américain se penche sur Amazon pour éventuellement démanteler l'ogre Amazon. Vous allez voir, Donald Trump.
Merci beaucoup Axel de Tarlé. Eva, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir pour se remettre de nos émotions?
Un très joli documentaire qui pourrait être illustré par cette musique.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a.
On va pas faire un quiz, Axel. Hein. Mistral gagnant, évidemment, désigné chanson préférée des Français en 2015. Eh bien, C8 consacre à 21h ce soir un documentaire à Renaud. Renaud dont les fans attendent des nouvelles, de bonnes nouvelles. Car après sa dernière tournée en 2016, l'artiste tente encore une fois de venir à bout de son addiction à l'alcool. Ce documentaire qui est plus people qu'artistique hein, revient sur les démons qui hantent Renaud et sa proportion à s'isoler dans une forme de mélancolie, comme le raconte le journaliste et ami Didier Varro, l'autre ami, Raphaël Mesrahi, ou encore son assistant Pierre Tarde.
Renaud a du mal à vivre avec cette idée qu'on peut mourir dans un monde beaucoup plus malade que celui dans lequel on est né.
C'est un ras-le-bol de cette violence quotidienne, quoi. C'est un ras-le-bol de cette méchanceté, de cette, pas pour lui, hein, pour tout ce qui nous entoure.
Je ne sais pas si Renaud il est malheureux ou désespéré, mais alors c'est lui-même qui le dit, il souffre de mélancolie.
Alors, précision importante, Renaud a donné son aval, notamment à Pierre Tarde, qu'on vient d'entendre, mais aussi à Romane Serda, son ex-épouse, pour témoigner dans ce documentaire. Un film qui revient sur son enfance, sa relation avec ses parents, cette mère aimante, issue de la classe ouvrière, et puis son père, plus exigeant, professeur, traducteur, la relation avec ce dernier qui se rêvait écrivain est plus compliquée, et c'est le journaliste Erwan Lelouette qui le raconte.
Renaud, en découvrant le journal intime de son père, trouve cette phrase lourde de sens, qui est « Le succès de mon fils me tue », en fait. C'est assez étonnant, d'imaginer que ce père, sans doute fier de la réussite de son fils, est aussi bouleversé parce que son fils a eu le succès que lui aurait peut-être rêvé d'avoir.
Alors ce documentaire mérite le détour pour les témoignages, notamment de Pierre Tarde et de quelques proches, ainsi que pour des images d'archives plutôt rares, pas inédites mais rares. Dommage que le récit soit foutraque, il n'y a aucune logique ni temporelle, ni dans la construction thématique.
Ah oui,
non mais c'est vrai, non mais c'est gênant quand vous avez la matière et que c'est pas rangé, voilà.
Oui,
c'est à voir sur C8 à 21h.
Merci beaucoup Eva Rock, merci Axel de Tarlé, Mickaël Darmon, les trois fantastiques seront de retour demain peu avant 7h moins le quart. Céline, un dernier mot fédérateur.
Vive la raclette.
Pourquoi pas.
Il est 6h52, Mathieu Noël.
Debout les copains va bientôt s'éclipser pour céder la place à la matinale de Nikos Aliagas. Émission qui sera néanmoins, vous le savez, précédée de cette parenthèse rieuse que constitue le débrief de la matinale, un moment léger, enjoué, qui me donne envie, tiens, d'écouter avec vous quelques notes de...
Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi.
Car comme dirait Nikos Aliagas...
Ça fait du bien, un peu de France Gall.
Oui, bon, à tout de suite.
Il est 6h54, Mathieu Noël.
vous les copains, on ne sait pas pourquoi tout à coup on a eu cette musique, c'est pour ça que nous nous sentions un petit peu piégés. Debout les copains, les amis, c'est bientôt fini, le rideau va bientôt tomber sur cette Comédia dell'Arte qui est notre émission, espace de création hybride empruntant autant au code du journalisme qu'à ceux du burlesque, deux genres qui finalement à y réfléchir ont beaucoup en commun, car au crépuscule de sa vie, l'immense Eugène Labiche ne disait-il pas Eva...
Ouais, on s'en fout, non ?
Oui, bref, ne soyez pas triste, en gros, le meilleur est à venir, quoi. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour, mon cher Nikos.
Hello, camarade.
Ce matin, je tenais d'abord à vous féliciter pour cette joie de vivre que vous parvenez à insuffler à nos auditeurs, même au cœur de l'hiver. Dans quelques instants, je le devine, votre première question sera...
Quand est-ce que j'ai chanté ça ?
Un indice, c'était lundi. Vous étiez bien chauffé la voix avec Jean-Jacques Goldman. Alors, pour la plus grande joie de vos fans, vous avez logiquement enchaîné sur...
Jesse Garonne, c'est lundi.
Oh. Oh, oh,
c'est lundi.
Oh, 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 oh.
C'est là que j'ai compris qu'en 2019, Europe 1 allait remonter la pente. Une telle énergie, une telle patate, une telle modernité, c'est forcément l'année du sursaut. Europe 1 qui entend d'abord redevenir numéro 1 sur l'info. L'actu, rien que l'actu, sans jamais céder aux sirènes du sensationnalisme.
Un moine bouddhiste qui fait du skateboard.
Au programme également, plus de reportages sur le terrain avec les enquêtes d'Arthur Enbaché, le monsieur scoop d'Europe 1.
Oh ben c'est des piquets en sapin autoclavé avec une clôture métal galvanisée.
Est-ce que les sangliers creusent ?
Ça peut arriver qu'ils creusent, mais bon, normalement la clôture est bien tendue, donc logiquement ça ne devrait pas.
Reportage très intéressant. Bien sûr, on aura quand même appris que les sangliers peuvent creuser. Vous aviez ?
Non, moi j'ignorais. Voilà.
Ça sent bon la win en 2019 pour Europe 1. D'autant qu'on peut compter sur l'abnégation de Nikos qui puise parfois dans la sagesse antique du stoïcisme pour ne jamais renoncer. Oui, il y a des matins plus difficiles que d'autres, mais face à un mot compliqué, l'important c'est de ne jamais baisser les bras.
Et une enquête de l'IGPN sur un commandant de police de Toulon.
Alors, je
n'aime pas les initiales.
Ah oui, non mais moi non plus les sigles.
Je me plante sur les initiales.
Alors évidemment, cette parfaite connaissance de la philosophie grecque et notamment donc du stoïcisme est un plus pour surmonter les obstacles sémantiques. Mais en revanche, avoir trop d'idées philosophiques peut nuire au rythme des interviews. Après son record face à Danny Boone en octobre dernier, Nico signe un doublé avec la deuxième question la plus longue du monde.
Au début de sa vie, on veut tous, ou certains veulent devenir quelqu'un. Un jour, je serai un tel. Et puis, vers la fin, ou quand on devient senior, on veut juste être soi-même ou savoir qui on est. C'est Pindare, je crois, qui dit « Deviens ce que tu es ». Êtes-vous devenu celui que vous vouliez devenir ?
Vous pouvez répéter la question ?
C'est le problème des questions trop intelligentes.
Moi-même,
avec des
je me suis dit, pour qui tu te prends ?
C'est très beau, mais à la fin, on oublie la question. Bravo quand même, Nico.
Merci, Mathieu Noël.
Cette question,
mais êtes-vous devenu celui que vous vouliez être ?
Loin de là.
C'est ce que vraiment, je me disais aussi.
Loin de là.
Merci, Mathieu Noël. Bonjour, Eva Rock. Et bonne journée.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.